présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il baisse les mains et lui dit « Vous avez vu tous les malheurs que nous avons eus ?» Il lui dit « Oui, je suis navré. Je ne pouvais pas savoir. J'ai laissé des plumes dans cette histoire. Le pape me fait la tête et n'a plus confiance en moi. » Elle lui dit « Vous n'êtes pas le seul à avoir eu des ennuis. Moi-même, avec mon mari, ça a été dur. » Il lui dit, j'en suis navré. Elle lui dit, vous l'êtes, mais ça ne change rien. Au mal que vous avez fait. Elle le regarde et lui dit, allons tout de même nous asseoir. Elle le mène vers un fauteuil. Il s'assoit. Elle s'assoit en face de lui. Vous en avez beaucoup voulu, vous savez. Et je suis très en colère contre vous. Il baisse la tête et lui dit, tout ça est de votre faute. Il lui dit, je sais. Elle lui demande, savez-vous ce qu'est devenue cette pauvre fille? Il lui répond, je ne sais pas. Peut-être a-t-elle été enlevée par les Américains pour faire chanter le pape. Le pape, lui, pense que c'est le gouvernement français qui la séquestre et est furieux contre la France. Et votre fils? Elle lui dit, il est retourné avec Nathalie. Nous en sommes au même point que de départ, hélas. Il lui dit, c'est peut-être aussi bien, tout aussi bien. Elle lui dit, cette fille de rien. Il paraît que sa mère est complètement folle. Vous désirez voir quelque chose? Oui, madame. Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Il lui dit, même si ses origines sont modestes, si la jeune fille est bien, c'est ça qui compte. Votre fils sera très riche. Il n'a pas besoin de plus. Il peut se permettre de prendre une épouse non fortunée. Charlotte lui dit, ce serait dommage. Alors qu'il peut s'allier avec ce qu'il veut, même une famille royale. Riante. Frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. C'est pour les boissons. Qu'allez-vous boire, monsieur de Janjou? Un cognac, s'il vous plaît. Elle lui dit, alors, deux cognacs. Ça nous fera du bien. Et la bonne se retire. Ça lui dit, pour ce qui est de la succession. Gilbert ne veut absolument pas remplacer son père. Les affaires ne l'intéressent pas. Et Jean-Jules lui dit, ça lui viendra. Pour le moment, il est jeune. On frappe à la porte. Entrez ! Entre la bonne. Il vient servir le cognac. Va apporter sa table basse. Les boissons. Les serres. Merci. Merci. Et elle sort de la pièce. Ils boivent une gorgée. Charlotte lui dit, cette histoire avec cette fille m'a mis sans dessus dessous. Je suis lasse. Je crois que je vais me reposer un moment dans mon château. Vous avez raison. Et pendant ce temps, les gens vont oublier cette histoire stupide. Lorsque vous reviendrez, plus personne n'en parlera. Elle lui dit, souhaitons-le. Et Jean-Jules se lève et lui dit, je dois hélas vous quitter. J'ai affaire. Enfin, pas vraiment moi, mais j'ai avec moi un charmant jeune homme qui est venu à Paris sans rien et que j'héberge un moment. Il est charmant, mais manque de culture. Elle lui demande, que vient-il faire à Paris? Il lui répond, de la peinture. Ah, un nouveau Raphaël! Il lui dit, pas tout à fait, peintre en bâtiment, chez vous d'ailleurs. Elle lui dit, ah, je vois. Et vous l'avez connu comment ce jeune homme?
Dans le train.
Elle fait, oui, on peut faire de belles rencontres et les voyages favorisent et permettent les mélanges des classes. Il lui dit,
oui. Je vous laisse, je dois le rejoindre.
Elle lui dit, oui, allez retrouver votre Éphèbe. Elle le raccompagne jusqu'à la sortie.
Mes hommages, madame.
Merci, nous reverrons à mon retour. Dans à peu près un mois, je vous écrirai.
Merci. Et sort de la pièce.
Elle se dit, il a quel âge déjà ce Jean-Jules? Courir les jeunes comme ça. 75, 80, peut-être 95. Il devait avoir un sacré tempérament lorsqu'il était jeune. Parce que, à son âge encore.
Maurice reçoit une lettre de l'ambassadeur d'Amérique qui lui dit qu'il aimerait discuter avec lui. Maurice lui écrit qu'il viendra le voir le vendredi en 8 à 15 heures et qu'il est très heureux de son invitation. Le vendredi à 15h, Maurice va sonner à l'ambassade américaine. Et à 15h, Maurice sonne à l'ambassade américaine. Un huissier qui a ouvert la porte. Monsieur,
ce monsieur, front blanc, j'ai rendez-vous avec votre ambassadeur. Entrez, monsieur.
Il entre.
Grand hall d'entrée, l'ambassade a été mise dans un hôtel particulier du 18e dans le 16e arrondissement. Les meubles sont Louis XV, hall avec un petit salon. Domestique lui dit, veuillez vous asseoir, monsieur. Monsieur Fremblant va s'asseoir sur une chaise. Et le domestique monte à l'étage. Deux minutes plus tard, il retourne vers monsieur Fremblant. Monsieur l'ambassadeur vous attend. Veuillez me suivre. Il suit le domestique. Monte à l'étage. Jusqu'au premier. Et au premier, le domestique frappe à une porte. Entrez. Il fait entrer monsieur Fremblant. Bureau, vaste pièce, baie vitrée tenant sur un parc, cheminée de marbre, meuble Louis XV. L'ambassadeur, dès qu'il voit Maurice, se lève et va à lui. C'est un homme grand, fort, tête ronde, cheveux gris d'un 55 ans, costume marine. Il lui dit, excusez-moi de vous avoir fait attendre, de ne pas vous avoir salué avant. Mais c'était au téléphone lorsque vous êtes arrivé. Bonjour, monsieur Fremblant.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
L'ambassadeur lui tend la main. Allons nous asseoir. Et il le mène vers un fauteuil. Qui est en face du bureau. Et lui va s'asseoir à son bureau. Voilà, je vous ai fait venir, c'est pour vous dire que toute cette brouille que nous avons eue, il faut l'oublier. Rien ne doit changer dans nos rapports. Maurice lui dit, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur lui dit, et puis tout ça, c'est la faute à ce damné pape. Les catholiques sont stupides et ils devraient supprimer ça avec ce pape. De toute façon, il n'est pas catholique, mais œcuménique. Bon, laissons. De toute façon. Bon, alors, je vous ai fait venir, c'est pour vous dire que mon gouvernement est toujours d'accord pour nos affaires, nos contrats. La maison Disney a fait faillite et il n'y a plus personne pour la rénovation de nos villes. Sans vous, l'Amérique resterait une ruine. Vous devez nous aider. Maurice lui dit, oui, bien sûr, je suis prêt à vous aider. Envoyez-moi la liste des villes que vous voulez que l'on rénove avec un devis pour chaque ville. Il faudra aussi, c'est une politique pour assainir la population, éliminer les indésirables, les faiseurs de troubles, profiter de la rénovation pour faire le ménage. L'ambassadeur lui dit, oui, vous avez raison. Nous voulons une Amérique propre. Tu dis, et vous aurez une Amérique plus sûre. Les jours passent, comme la petite musique. Monsieur de Jean-Jus s'attache de plus en plus à ce jeune homme qu'il a rencontré dans le train.
Il est si gentil, ce Sébastien, et fait tout pour lui faire plaisir. Il n'a pas encore reçu de réponse pour son embauche et est obligé d'attendre. Tant qu'il ne sait pas où aller, il reste chez Monsieur de Janju à l'hôtel. Monsieur de Janju sent rajeunir à côté de lui. Il est tellement nerveux, il ne reste pas 2 minutes en place. Et ils sortent tous les soirs à Paris pour aller à tous les spectacles.
On va créer notre vie avec Austin. Gentil garçon. Rien là-dedans. Une autre salle ici.
Ce qui fait que Monsieur de Janju sort constamment. Avec lui.
Nous sommes ensemble. C'est une femme. Elle a un corps. La Vénus de Milo. Avec les bras. C'est drôle ce que je dis là, non?
Ouais.
Ah oui, je ne m'embête pas.
Je comprends ça.
Oui. Cette Austin est lamentable. Et dire qu'il y a 3 mois que vous êtes avec lui. J'aimerais beaucoup vous voir demain, c'est possible?
Je suis grise.
À 5 heures.
Je suis terriblement grise.
J'irai vous prendre à l'hôtel.
À l'hôtel?
Oui, mais gardez le secret. Pas un mot à Austin. C'est un ami. Il faut être correct. Oh, je vous adore.
Il est infect, cet Austin. Il m'a raconté tout ce que vous faisiez ensemble.
Pour remercier M. Janju, Sébastien lui sert de secrétaire. Il lui écrit ses lettres, qu'il lui dit, ses mémoires. Il lui fait quelques courses, commande les taxis, réserve par ordinateur ou fax tout ce qu'il a besoin. Fait tout en sorte à ce que tout soit en ordre. Surveille tout. Un soir, qui dîne dans leur salon, M. Janju lui demande. Votre ami ne vous manque pas? Il lui dit, non. Et votre famille? Non plus. Mais quelque chose serre le corps de Sébastien. Il se dit qu'il n'y a rien quand on est vide. Il n'y a rien qu'un jouet qui fait des choses comme ça parce qu'on le lui dit. Une simple machine télécommandée à distance. Il se dit qu'on peut lui faire faire n'importe quoi, même de tuer ce pauvre monsieur de Janju. Mais parce qu'il peut réfléchir comme un être humain, se rebeller est en contradiction à ce qu'on veut lui faire faire. Ça signifie qu'il est plus qu'un robot qui comprend ce qu'il est, qui se pose des questions sur ce qu'on veut lui faire faire. C'est qu'il se sent en contradiction. Avec ce qu'on veut lui faire faire, c'est qu'il est plus un robot. Sans le savoir, les savants, les techniciens ont créé la génération 1, des robots de génération de robots ultra perfectionnés sont créés. Plus ils ont créé plus qu'un robot. Oh, sans le savoir, une connaissance artificielle. Les robots de génération 1 sont presque autonomes, avec un micro perfectionné suffisamment qui leur permet d'avoir des idées indépendantes et de se rebeller contre les commandes, contre ce qu'on leur demande de faire. Les autres robots avaient une connaissance artificielle, mais restreinte. Ils n'avaient pas d'idées personnelles, tandis que la génération 1 peut se poser des questions. Une génération supérieure. Mais malheureusement, elle risque d'être dangereuse pour l'homme. Création artificielle peut se rebeller, demander son indépendance et chercher à détruire l'homme. La guerre machine contre l'homme peut se produire. Plus une machine est perfectionnée, plus elle s'approche de l'intelligence humaine, plus elle est difficile à être dominée. D'une façon primaire, on peut constater dès à présent que plus une machine est perfectionnée, plus elle tombe en panne et moins on peut la réparer. Lorsque l'on change les pièces, on ne les change pas, on ne les répare pas. On change la machine de plus en plus souvent. Avant, un appareil ménager durait 15 ans, puis 10 ans, puis 5 ans, etc. Et plus ces machines s'approchent de l'intelligence humaine, plus la technique est perfectionnée, plus elle aura des pannes, et des pannes de caractère, en plus des pannes techniques. Et ce sera de moins en moins possible de les dompter. Machine, robot, chimère, télécommandée, comme le pauvre Sébastien. Pour le moment, elles sont télécommandées. Mais la catégorie 1 a son autonomie parce qu'elle peut réfléchir et penser et se poser des questions. Sébastien est un mutant. Sébastien peut se poser des questions, mais il ne peut se poser des questions, mais il est tout de même télécommandé. C'est la télécommande qui qui, tout de même, qui le dirige malgré tout. Même s'il pense que ce qu'il fait n'est pas bon, il ne peut pas arrêter les ordres. Il ne peut pas aller au-delà des ordres qu'on lui donne. Pour Sébastien. Les jours passent. Dans toute la France, il y a de plus en plus d'enlèvements d'enfants. On a même des cars de ramassage scolaire qui disparaissent. Des chauffeurs, nouvellement embauchés dans les entreprises de ramassage, vont prendre les enfants à la sortie des écoles et le car disparaît à tout jamais. La famille, l'école, a beau porter plainte, ça ne sert à rien. En réalité, les enfants sont menés dans des maisons que vous connaissez déjà. On les sélectionne, on leur fait des tests. Ce sont des enfants pour le monde futur, des futurs humains immortels. Deviendront immortels en mettant leur cerveau dans le corps d'un robot. Mais on ne veut pas le faire pour n'importe quelle personne. Il faut que la personne soit suffisamment intelligente. Et ce doit être des êtres humains en dessus de la moyenne. C'est pour cela que l'on fait des sélections.
Pas des super paysages, je pense.
Les enfants qui ont réussi le test de l'intelligence continueront à étudier et auront un diplôme et un métier. Poursuivront leurs études dans le centre. Ils seront suivis constamment et surveillés physiquement et mentalement. Si en cours d'année le sujet se dégrade, on le détruira.
Bon. Je te laisse, madame.
Car toutes les personnes qui ne sont pas bonnes pour le futur sont détruites. On les mène à la clinique Jeune-Tout Pontois pour les dépecer et garder ce qu'il y a de bon et le reste pour les pâter pour chien. Les enfants dans le centre sont surveillés jour et nuit. Ils ont des chambres individuelles. Ils sont nourris, blanchis.
Pour vous, cette année, c'est une matière importante.
Et on leur donne une culture de haut niveau. Les classes n'ont que 5 élèves. On leur apprend la culture générale, spécialisée pour le futur métier, la culture civile. Comment vivre en société? Au début, lorsque les enfants sont reçus dans le centre, ils sont terrorisés, maigres et sales. Ils sortent du car en se demandant où ils sont. Ils sont mis dans un pré, où des femmes en blouse blanche, des hommes aussi, en costume noir. Un homme grand, mince, cheveux blonds, d'un 35 ans, leur dit. Les enfants, les cars ont une panne. On ne peut pas vous mener chez vous. Alors vous allez rester ici, bien sagement, jusqu'à ce que vos parents viennent vous chercher. Une femme en blouse blanche et forte leur dit. On est bien ici. Alors, c'est la campagne. On a vous donné à manger en attendant.
Vous verrez, vous serez très bien. Allez, mettez-vous en rang, deux par deux. Allez. Les enfants, c'est vécu. Ils sont entre 10 et 12 ans. Et plus jeunes. Pour les plus jeunes, c'est plus difficile. Plus jeunes, ça demande constamment leur mère. Et les plus vieux se demandent constamment leur indépendance. Le garçon dit, madame, la femme vient vers lui et lui dit, je suis Cheftaine Bernadette. Oui, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais, c'est savoir, quand est-ce que mes parents vont venir? Elle lui dit, dès qu'ils le pourront, allez, nous allons entrer dans la maison. C'est une vieille maison familiale du 19e, façon pensionnat de riche. Les murs sont peints en blanc, meubles d'hôpital, c'est propre. Il y a de grandes baies vitrées qui donnent dans le parc. Les vitres sont anti-vol, elles ne peuvent pas s'ouvrir. Il y a en plus une alarme. Les fenêtres peuvent s'ouvrir, mais il y a l'air conditionné qui vient du toit. Le sol est carrelé. Il y a de grands escaliers qui mènent aux étages. Rez-de-chaussée, des services, les cuisines, la laverie, le cellier. Au premier, il y a le réfectoire, salle de classe, de musique, bibliothèque, informatique. Au deuxième, il y a les chambres individuelles pour les élèves. Et l'on peut recevoir pas moins de 50 élèves. Il y a la salle de bain et l'infirmerie. Au troisième se trouve le bureau directorial, le bureau des professeurs et autres bureaux, salle de réunion et salle de surveillance centrale. Toute la propriété est surveillée 24 heures sur 24 par des caméras micro. De partout, même dans le parc, les chambres des élèves et même les salles de bain. Ça aide pour la discipline et permet de juger les élèves, les bons éléments, en plus des notes scolaires. Il y a une équipe de trentaine de personnes qui sont dans le centre de surveillance, qui regardent, écoutent, enregistrent et notent tout ce que font les élèves qui se relient 24 heures sur 24. On mène les enfants dans le réfectoire. On les fait asseoir à table, on leur donne à manger. Un repas bien bourratif et bien sucré. Le bourratif endort, le sucré calme les nerfs. Pommes de terre, riz, poisson, gâteau de riz, gâteau russe, salade de fruits, pâte de fruits et jus de fruits. Une fois qu'ils ont bien mangé et bien bu, ils n'ont pas vu le temps passer. La chef Bernadette leur dit, en attendant que vos parents viennent, comme ils commencent à se faire tard, ils vont vous faire faire vos toilettes. Et après, vous irez vous étendre comme ça. Lorsque vos parents viendront vous voir, vous serez en pleine forme. Levez-vous. Ils se lèvent un peu là à cause de la digestion et leur dit, allez, en rang, deux par deux. C'est ce qu'ils font difficilement. Elle ouvre la porte et leur dit, ils sont montés au premier étage. Ils la suivent. Avant qu'ils entrent dans la salle de bain, elle leur dit, venez vous déshabiller et entrer dans la salle de bain. Ils se déshabillent. Laissez vos vêtements à terre. Voilà. Maintenant, entrez dans la salle de bain. Ils entrent dans la salle de bain où une femme en blouse blanche et tablier PVC transparent est là pour les aider à se laver. Ils sont douchés, essuyés, ils sortent de la salle de bain. Les enfants ne trouvent plus leurs vêtements. Où sont nos vêtements ? Achète-t-elle leur dit. On va les nettoyer. On vous les rendra. Vous allez prendre un pyjama. Allez, allons dormir. Elle fait entrer chaque enfant dans une chambre. Il y a un lit à une place, une table de nuit, une armoire, un petit bureau et une chaise. C'est très clair, les fenêtres sont sur le côté du lit, ce qui fait que de son lit, on voit les arbres, le ciel. Les arbres bougent, font rêver et détendre. Ça peut faire aussi le contraire, ça peut faire peur. Là, ils trouvent sur le lit un pyjama et ils le mettent et se mettent au lit. La porte s'ouvre. Une femme s'approche du lit. Elle est en blouse blanche et porte un ordinateur portable. Elle est grande, blonde. Prend une chaise et va s'asseoir près du lit. Elle demande au petit garçon qui est dans son lit. Il a 10 ans, blond, cheveux bleus, petit ange. Tu vas bien ? Oui, un peu trop mangé, elle lui dit. Je t'ai apporté une pilule pour que tu digères. Tu la prendras tout à l'heure. Alors, puisque tes parents viennent te chercher, il faut que tu me dises ton nom, adresse, etc. Il faut que je te pose des questions. Ton nom. Boulou. Prénom. Pascal. Adresse 5 rue Faubourg Saint-Georges. École Henri IV. Bien. Âge 10 ans. Très bien. Bon, ça suffit pour le moment. Tu vas te reposer en attendant qu'on vienne te chercher. Elle sort de sa poche une pilule. Tiens. Avale ça. Pas la peine de l'eau, ça s'avale facilement. Pascal prend la pilule bleue et l'avale. La femme lui dit, détends-toi et dors. Et elle sort de la chambre. Elle va faire ça dans toutes les chambres. Pascal est dans son lit. La femme est partie. La lumière du plafond s'est éteinte. Elle s'éteint à la lumière du jour. Entre 21h30 et 7h. Mais elle peut... Le centre... La lumière au plafond s'est éteinte. Il n'y a pas d'interrupteur, la lumière s'éclaire et s'éteint automatiquement. Elle s'éteint à la tombée du jour et s'éclaire au lever du jour. Mais entre 21h30 et 7h du matin, elle s'éteint, mais le centre peut la rouvrir. Et chaque pièce peut être éclairée indépendamment des autres. Pascal se sent là. Il a la tête de plus en plus vide. Ça le fatigue, même de penser à ses parents. Alors, il ne peut plus et se laisse aller. Il sent le sang s'éloigner du bout de ses membres. Peut-être de plus en plus faible, voix trouble, et s'endort. Sommeil noir, bouche un peu amère, extrémité des doigts, des pieds étranges, l'impression de plonger. De plonger, s'enfoncer, se creuser dans le lit. Et plus rien. Le trou noir. À l'étage supérieur, alors que les enfants dorment, dans la salle de réunion, qui est une grande salle avec une grande table ovale, chaises autour, il y a les infirmières, infirmiers, surveillantes, direction, professeur et le directeur de l'établissement, qui est un homme grand, mince, cheveux grisonnants, courts dans les 50 ans, costume gris. Dit, j'espère que cet arrivage sera mieux que les autres. Jusqu'à présent, nous avons eu jusqu'à 90% de déchets. La dégénération est très mauvaise. D'après les chiffres, nous sommes une des maisons qui fait le moins bien. Nous sommes juste derrière Marseille. Marseille, c'est une véritable catastrophe. On parle, c'est de fermer les maisons et de mettre le coin plan famille en ville, en zone spéciale. Elle servira de camp pour les déchets adultes et sera détruite une fois que le but sera accompli. Le gouvernement, sur notre conseil, a déclaré, c'est de mettre la ville en quarantaine. Plus personne ne pourra en sortir. Et Marseille sera jumelée à la Corse. La meilleure maison est à Lyon. Elle ne fait que 60% de déchets. C'est notre but. Et nous voulons... C'est être à égalité avec Lyon, qui est pourtant une ville avec beaucoup d'anards. Blond, dans les 25 ans, lui demande, « Oui, mais comment ? Nous nous contentons, c'est de prendre, sans trier. Il n'y a pas de tri, de sélection, c'est le bazar. Il serait peut-être bon... c'est de faire une sélection avant de prendre les enfants, aller dans les écoles, faire le tri avant, proposer aux familles des bons élèves, une école spécialisée pour eux. Le directeur lui dit, vous avez raison, mais ça s'est fait. Mais comme nous avons pris beaucoup de retard pour aller plus vite, la direction a décidé de le faire sans sélection préliminaire, ce qui nous crée beaucoup de difficultés et de travail et d'erreurs. Mais l'on changera peut-être de méthode, surtout que le stock d'organes est bien plein et bientôt les organes humains auront du surplus. Parce qu'il y aura des organes fabriqués par des bactéries grâce à des prélèvements sur la patiente. Donc, nos déchets ne pourront plus que servir à faire du pâté pour chien. Il n'y aura plus besoin d'organes humains. Ce qui fait que les surplus ne serviront à rien. Qu'il va falloir sélectionner si on ne veut pas perdre de l'argent. Une femme grande, mince, rousse, en tailleur bleu roi dit « Il faut, c'est surtout former des jeunes gens pour qu'ils soient des cadres et des directeurs. Il y a beaucoup de demandes. Framblin recherche pour, dans sa catégorie des architectes et chefs de chantier. Je ne tombe en toi des chercheurs en biotechnique et informatique. Ça manque, car il faut changer de personnel tous les 15 ans, à cause des nouveautés techniques. » Le directeur demande, « Combien des chiffres ?» Elle lui dit, « 500 architectes, 2000 chefs de chantier, 300 chercheurs bio et 100 ingénieurs informatiques. » Le directeur lui dit, ça ne va pas être facile avec tous les déchets que nous avons. La femme lui dit, et si l'on se servait du stock de sperme, de millustre, pour féconder des femmes à nous? Le directeur lui dit, c'est pas nous qui le ferons, mais une autre unité qui est à la clinique Jeune Tout Pontois. Le plus difficile, c'est de pouvoir trouver une mère pondeuse qui ait le physique et le coefficient voulu. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, plus enseigne, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.